France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
De Léo Ferret, Gilles Deleuze disait « Avec Léo Ferret, il n'y a aucun doute possible. Le plaisir est immense. D'abord un plaisir abstrait, cérébral. Puis une sensation plus physique, qui est en effet du plaisir cérébral et qui parle au corps lui-même. Typiquement, on appelle cela la jouissance. Et puis cet homme superbe, à qui l'âge ne donne pas, comme on dit bêtement, une éternelle jeunesse, mais une tonalité de liberté absolue, une grâce incomparable qui va bien au-delà de la vie et de la mort elle-même. Léo Ferret a ce don extrême de dire des choses simples en révélant ses affects et ses expériences dont nous nous sentons les complices. C'est ce qu'on devrait montrer, ce complot d'affects, cette culture de la joie, cette dénonciation radicale des pouvoirs, ce glissement progressif vers un plaisir qui est le contraire de la mort. »
Comment est-ce qu'on peut être solitaire ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être solitaire alors que la caractéristique du solitaire, c'est précisément qu'il a envie de n'être pas seul. Je ne sais pas si un solitaire, c'est pas précisément le plus beau tissu de contradiction qui puisse exister.
Sûrement, mais la solitude, ça se passe dans la tête. Et c'est le seul drame de la solitude, en définitive, parce que elle est réelle. On a l'habitude de dire qu'on est seul dans une foule, c'est vrai. Maintenant, la solitude matérielle, si j'ose dire, c'est-à-dire le type qui vit dans une maison tout seul, qui se fait sa cuisine, qui se fait son lit, ça c'est difficile, c'est ça qui est difficile, je pense. Mais la solitude, c'est pas quelque chose de volontaire, c'est comme ça, quoi. Les gens sont seuls ou non, quoi. Je pense.
Mais l'amitié, vous m'avez dit tout à l'heure au début de cet entretien, bon, à la rigueur, dans la vie, on a un, deux, trois amis. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très rare. Et c'est déjà un jugement de solitaire, puisque c'est le jugement d'un homme très, très sélectif. Et si, en plus, il a peu d'amis, c'est parce qu'il est exigeant en amitié. C'est par conséquent parce que l'amitié a beaucoup d'importance.
Non, moi je crois pas. Vous savez, l'amitié, rencontrer l'autre, c'est d'abord une chance incroyable. Et puis, la vie n'est pas assez longue pour pouvoir avoir cette chance deux fois. Quand on a la chance de rencontrer un ami. Pour moi, un ami, c'est celui sur lequel on n'a jamais d'arrière-pensée. Voilà. Ça. C'est le type, vous êtes là, vous pouvez rester deux heures sans parler, vous êtes toujours d'accord. Vous êtes d'accord sur tout, surtout. On ne se fait jamais de concessions en disant, mais t'as peut-être raison. Non, on est toujours d'accord sur tout. Vous savez, pour moi, le type qui vient me dire « j'aime bien ce que tu fais », mais je dis « si tu dis mais, va-t'en, c'est pas un ami ». Même si je fais une connerie, il faut que tu dises que c'est une connerie, mais que tu es d'accord, et que tu l'aurais faite en même temps que moi. Là, t'es un ami. Sinon, t'es pas un ami. Ouais. On est tellement seul, comme on est artiste, le type vient vous dire « c'est très bien », puis on le sent venir de loin. Ça. Moi, j'en ai vu, comme ça, j'en ai connu. Ah, ça là, j'ai envie de les bouffer. Moi, je le type qui est mon ami, c'est celui qui rentre à la maison, qui ne se suit pas les pieds d'abord sur le paillasson, qui vient et puis qui s'installe comme ça, sans en rajouter d'ailleurs, et qui est d'accord avec moi sur tout. Et surtout sur ce que, sur lequel il ne devrait pas être d'accord s'il était lucide. Voilà.
C'est une forme d'aveuglement ou c'est, oui, ou c'est une adhésion?
Mais l'amour, c'est l'aveuglement. Sinon, c'est plus l'amour. L'amour, c'est l'aveuglement. Quand vous aimez une femme, il faut être aveugle pour aimer une femme. Si on juge une femme, c'est fini, quoi. Hein ? On fait comme Kant.
C'est peut-être pour ça qu'Homère, qui était aveugle, oui. C'est pour ça qu'il a écrit Hélène.
Madame, où courez-vous dans le vacarme et le silence du devoir, madame, tu vas retrouver ton mari pendant que l'autre fait la pause. Madame, le bonheur, ça n'est pas grand-chose. Madame, c'est du chagrin qui se repose. Alors, il ne faut pas le réveiller. Le bonheur, qu'est-ce que c'est?
La musique, j'y reviens maintenant parce que, bon, on a beaucoup parlé des chansons, mais on n'a pas tellement parlé de cet oratorio ou des compositions plus importantes que vous avez tentées. Est-ce que c'était pour vous, comment dire, une obligation, une pulsion? Est-ce que vous aviez envie de vous prouver que vous étiez un compositeur plus important qu'un mélodiste de chansons ou quoi?
Oui, alors moi, je n'avais pas envie de me prouver quoi que ce soit. Je voulais faire quelque chose, et vous savez, c'est un drame, parce que j'ai laissé tomber la musique. Il y a combien, je ne sais pas moi, depuis 54 que je n'écris plus de musique. C'est abominable. Et je n'ai plus envie. Parce que c'est une nouvelle, une autre carrière, c'est une autre chose. Il faut rentrer dans un autre cycle. Et comme je n'ai pas le temps, comme je n'ai pas le goût de le faire, je croyais au Père Noël. Quand j'écris ce temps, j'ai mis un an. Un an à travailler tous les jours, c'est difficile. J'ai mis ça en musique, la chanson du mal-aimé, c'est une chose monstrueusement longue. J'ai fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, devant Apollinaire. Et puis j'ai orchestré ça le mieux possible. Et puis un beau jour, je suis allé avec mes feuilles, avec tout mon paquet de musique, tout fini, chez...